Alors, Sébastien Didier a chanté comme c'est une joie d'être là. Avec vous, je ne sais pas si c'est réciproque.
Amen.
Vous n'êtes pas obligé, en tout cas, Didier, c'est réciproque. Alors, je remercie la dernière sœur qui a chanté en hébreu parce qu'elle m'a ouvert la voie, on va dire. Vous savez, nous les pasteurs aux chevilles dégonflées, on cherche avec humilité des fois des soutiens, des signes du Seigneur. Et il est question aujourd'hui de joie. Une joie malgré les circonstances, une joie de l'esprit. Et voilà, je remercie le Seigneur de m'avoir confirmé. Et aussi votre slogan, soyez toujours joyeux, qui est affiché sur la diapositive. Donc voilà, est-ce que vous êtes en joie ce matin? Amen. Hein, je pense que louer Dieu sans joie, c'est compliqué. N'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous en joie? Pourquoi seriez-vous en joie? Ou l'inverse?
Parce qu'on est déjà là.
C'est déjà là, ouais, ok. Le frère, tu veux dire quoi?
Pour le souffle de vie renouvelé.
Pour la vie renouvelée en Jésus-Christ. Amen. Parce que vous pensez qu'il y a encore de la joie dans le Seigneur?
Oui.
Vous êtes sûr? Hein, souvent, on parle de tout feu, tout flamme pour le Seigneur au début de notre conversion. Et après, il y a comme des phrases qui viennent maudire cette conversion en disant « Écoute, ça va descendre. Écoute, là, tu es tout feu, tout flamme, mais au fur et à mesure de la vie chrétienne, tu vas voir, tu vas t'ennuyer. Tu vas être fatigué. Tu vas perdre ce zèle, cette joie dans le Seigneur. » C'est faux! C'est faux et on va s'attaquer à ça aujourd'hui. Amen. Donc, avec différents types de joie, vous allez comprendre... ma première joie, c'est... la joie charnelle, la joie terrestre. La seconde joie, c'est la joie céleste, celle que Dieu éprouve. Et la troisième joie, c'est la joie en Dieu. Donc j'ai essayé de trouver un adjectif qui rime avec terrestre, céleste, et je n'ai pas trouvé. Donc c'est pas grave, hein, je laisse le soin à Didier de trouver un adjectif, il est bien plus doué que moi pour cela. Donc le type de joie, la source de la joie, les profils, une joie éphémère, durable, etc. Et on commence par notre première référence dans Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Luc chapitre 12, versets 15 à 21, je vous fais la lecture, hein, notre ami Robin est à la technique, merci pour ta flexibilité. Donc, c'est Jésus qui parle en disant, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Donc, Jésus va raconter l'histoire, c'est ce qui nous intéresse ce matin. La terre, les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand. J'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. C'est un agriculteur, on va appeler l'agriculteur, d'accord? Et la source première de sa prospérité, c'est ce que fournit la terre. Tout vient de la terre. Le steak haché vient de la terre. Le nickel, le minerai qui est dans vos smartphones vient de la terre. Tout ce que vous avez vient de la terre. Et Dieu est celui qui donne. Et dans notre référence, un agriculteur est un riche agriculteur. Et qu'est-ce qu'il recherche encore? À s'enrichir. Les riches cherchent toujours à s'enrichir. C'est jamais assez. Vous demanderez aux meilleures fortunes du monde, est-ce qu'ils sont assez riches? Ils nous disent non, mais il manque quelque chose encore. Donc, insatiablement, on cherche à s'enrichir. Donc cet homme, il est riche et il a une espèce de joie. Il parle à son âme. Vous savez que c'est un procédé biblique de parler à son âme. David parle à son âme. Donc on va le voir plus tard. Donc il parle à son âme, il dit à son âme, réjouis-toi, donc sois dans la joie, car tu es en sécurité, tu vas prospérer. La joie de ce gars prend sa source dans la prospérité de ses biens terrestres. C'est une joie, une sécurité que cela lui procure, c'est une joie de bien matériel. C'est ce que le monde cherche, une joie sans forcément avec Dieu. Mais malheureusement, et puisque c'est la parole de Dieu, cette tentation peut aussi nous frapper en tant que chrétien. Nous sommes conscients du monde invisible, n'est-ce pas ? Vous êtes conscients du monde invisible ? Vous êtes conscients qu'avant ce monde visible, il y a eu un monde invisible ? Que le monde invisible crée le monde visible ? Dieu, qui est invisible, a créé la terre, les cieux et la terre, donc a créé le visible. De l'invisible sort le visible. Et souvent, nous, en tant qu'hommes, on croit que le monde, le cosmos, hein, tout ça tourne autour de nous. On oublie des fois qu'il y a eu un royaume avant, il y a eu des guerres avant, angéliques, il y a eu des anges, il y a eu des créations, etc. Donc, cet homme a une joie terrestre, matérielle. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça et Jésus nous enseigne ce matin en nous demandant où est notre joie ? Où est ta joie ce matin ? Est-ce que cet homme a mal fait de se réjouir ? Je me suis posé la question. Est-ce que cet homme a mal fait de se réjouir ? Quand l'ouvrage de ses mains lui a rapporté, faut-il être triste quand les terres rapportent, quand je m'enrichis ? Est-ce que nous, chrétiens, on doit s'empêcher de nous réjouir quand on est béni ? On a une promotion au boulot ? On a réussi nos examens ? Notre terre a rapporté ? Est-ce qu'on est plus spirituel parce qu'on ne se réjouit pas ? Est-ce qu'on doit vivre constamment dans la contrition ? Oh Seigneur, je m'en veux, je me suis réjoui parce que j'ai réussi.
Non.
Est-ce que c'est plus spirituel ? Non ! On a le droit de se réjouir, amen ! Et on a le droit de réussir, amen ! Et on a le droit d'être dans l'abondance. Amen. Dieu bénit et nous pouvons nous réjouir sans nous culpabiliser. C'est le Seigneur qui bénit. Il a béni cet homme parce que c'est Dieu qui envoie la pluie. C'est Dieu qui envoie les saisons. C'est Dieu qui fait fructifier. Dieu a béni cet homme en bénissant la terre, n'est-ce pas ? Il est dit que Dieu fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu devant lequel tous sont égaux, son amour paternel s'étend à tous et à toute la création. Dieu bénit. Amen. Et il nous a encore béni d'autant plus avec Jésus-Christ, son Fils, la plus belle de ses richesses. Amen. Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste selon sa grâce. Alors réussite, richesse, la joie provient de Dieu. Job était très riche. Avant son épreuve, il est devenu encore 2 fois plus riche. Salomon, nous dira la Bible, était un roi immensément riche. On ne sait même pas si les riches de ce siècle dépassent la richesse d'antan que Salomon avait. Il est dit qu'il avait transformé l'or était aussi banal que les pierres. Ça aurait été intéressant de marcher à sa suite. Hein. Il est riche. La richesse n'est pas un problème, au contraire. Mais la gestion de la richesse, là est le souci. Dieu, mais tous ne sommes pas en mesure, nous ne sommes pas en mesure de gérer cette richesse-là. Beaucoup voudraient être un peu plus riches. Paul dira, je suis capable de vivre dans l'abondance, comme on le disait. Il sait gérer, lui. Mais nous, ce n'est pas forcément notre cas. Hein. Certains diraient, « Ah Seigneur, si j'étais riche, je donnerais pour ton œuvre. Je donnerais tout. Je donnerais la moitié, disons, je garde un peu pour ma famille, hein, au cas où. S'il y a un petit truc, je vais de côté. Seigneur, pour être plus biblique, je donnerais la dîme. » Ouais, mais la dîme du net ou du brut ? Et finalement, Seigneur, tout appartient. Ça ne sert à rien que je te donne ce que j'ai, tout appartient à Seigneur. Vous savez comment on trouve des subtilités pour amasser pour nous ? C'est une tentation. Oui, tout lui appartient, mais si Dieu nous donne, c'est aussi pour qu'on puisse bénir, pour son œuvre, qu'on puisse bénir les autres, mais c'est surtout pour tester aussi notre cœur. Sommes-nous capables de donner ce qui a de la valeur pour nous ? Dieu a tout donné, son Fils. Alors, la richesse n'est pas un problème. Est-ce que vous êtes riche ? Des biens matériels. Ce n'est pas un problème, mais c'est savoir gérer la richesse qui représente un défi. Ici, il y a plusieurs problèmes chez notre agriculteur. Il y a des problèmes d'orientation, des problèmes de conséquences, des intentions et surtout l'attitude de son cœur. L'attribution de cette source, la gratitude, la reconnaissance,
Quel est le problème ici? Quels sont les problèmes ici? Donc j'en ai relevé quelques-uns. Ainsi est celui qui amasse les trésors pour lui-même, qui se réjouit des richesses terrestres et qui n'est pas riche pour Dieu. Waouh! Premier problème, il n'est pas riche pour Dieu. Il se réjouit de quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur pour Dieu, même si Dieu en est la source. Mais qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu? On le verra plus tard. Qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu? Deuxième problème, on trouve juste en amont, quand je vous ai lu, il y a cette convoitise, c'est-à-dire ce désir extrême et sans scrupule de vouloir posséder constamment. Il veut constamment. Et le troisième problème, c'est il ne pense qu'à lui-même. Réjouis-toi, mon âme. On est bien là. Hein? Je ne sais pas s'il va partager un petit peu avec la famille, etc. Mais c'est lui qui est au premier abord, c'est lui qui est la référence. Quelque chose, je vais vous lire une histoire récente. Après 18 ans à la tête d'une usine fabriquant de vitrages isolants en Vendée, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, M. Jean-Yves Glumineau revend sa société et il lègue une part de cette vente à tous ses salariés. C'est-à-dire, il lègue plus de 2 680 000 euros. Bien sûr, les impôts vont prendre 60%, ça on les connaît. Et il dira qu'un homme n'est rien tout seul. Je ne sais pas s'il est chrétien, ce gars-là. Il dira que cette prime est légitime, c'est de la reconnaissance. Donc là, vous avez un gars, je ne sais pas s'il est chrétien, qui est riche et qui sait partager. Qui sait partager, ça fait à peu près 17 000 euros chacun. Pas mal, hein? Dieu ne nous dit rien de plus sur notre agriculteur, mais la voix du ciel se fait entendre, insensée, ce soir, ton âme te sera demandée. Une voix qui se place peut-être pour nous ce matin, où est ta joie? Où est ton plaisir? Est-ce que tu éprouves encore du plaisir? Âme, une autre version, tu as de grandes provisions. Considère maintenant que tu peux employer ton trésor. Emploie-le entièrement selon le désir de ton cœur. Mange, bois et sois joyeuse. Alors, il y a deux hypothèses. J'ai vu deux hypothèses sur cette joie. J'essaie de la définir un petit peu. Soit la première hypothèse, il amasse tellement et il va l'utiliser plus tard. Donc, c'est une joie aussi de pouvoir ramasser. Des fois, on a des comptes en banque bien pleins. On se dit, ah, à la retraite, je vais bien profiter. Donc on ne profite pas maintenant, mais on fait craft. Des fois, on est un petit peu radin, mais on amasse. Et on se réjouit déjà de ce qu'un jour, on pourra utiliser tout ce que j'ai amassé. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est j'ai pas mal de richesses, je profite maintenant, et j'espère que cela va durer. Cette année. Donc oui, voilà, cette année, c'est bien, j'espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux, etc. etc. Donc, quelle hypothèse préfériez-vous? Vous êtes plutôt quoi? J'amasse, je profiterai plus tard. Ou je profite maintenant et on verra plus tard. Alors, l'hypothèse. La meilleure, ben moi je trouve qu'il n'y en a pas parce que la sentence, elle est grave. Ton âme te sera demandée ce soir. Dans les deux scénarios, pour moi, la sentence tombe et elle peut se réaliser. L'âme qui s'est réjouie des choses terrestres, quand elle va quitter la terre, elle va se réjouir de quoi? Si on n'amasse pas des trésors célestes, l'âme qui quittera la terre, elle va se réjouir de quoi? Elle n'a pas eu l'habitude de se réjouir des choses célestes. Et nous, chrétiens, nous sommes conviés à nous réjouir des biens célestes. Tout ce que vous pouvez amasser ne durera pas longtemps. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un monde invisible bien plus présent que le monde visible. Et Dieu nous convie ce matin à nous poser la question, qu'est-ce qui fait ma joie? Où sont placés mes trésors? Parce que vous ne retiendrez rien, même si vous êtes immensément riche. Alors des fois, on veut jouer un petit peu les deux, se dire, ben, si je veux être riche sur la terre et riche dans le ciel, c'est chouette, quoi. Ben, Dieu peut nous bénir.
Il y a des personnes qui sont très riches, il y a des grands entrepreneurs américains qui subventionnent les écoles publiques. Amen. Mais le souci, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la gestion de cela. C'est la gestion, c'est-à-dire que, est-ce que les richesses terrestres ne vont pas occulter celles que Dieu me demande d'avoir? Est-ce qu'il n'y aura pas un tiraillement là? Est-ce que je suis prêt à tout abandonner ici pour me concentrer sur ce que Dieu me demande d'avoir?
La Bible dira que l'homme est comme une feuille qui tombe. Comme la fleur des champs, elle s'épanouit. Le vent passe et elle disparaît. On n'est pas éternel. Je vais vous apprendre une grande vérité, une grande théologie. Ça a pris du temps pour comprendre qu'on n'est pas éternel. Nous comprenons bien que cet homme avait un schéma. Il avait un schéma, il avait déjà anticipé, il effectue des travaux pour stocker encore plus. Il réfléchit, il stocke. Nous aussi, on a des schémas. Qui que vous soyez ce matin, vous avez des schémas. Comment vous projetez-vous un jour sur un court terme, un moyen terme et un long terme? Mais ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'on doit laisser Dieu bousculer nos schémas. Mon âme, réjouis-toi, je suis riche, je vais amasser, je vais stocker, je vais casser. Oui, il se projette. C'est bien de se projeter. Mais si vous ne mettez pas Dieu dans l'équation, ça ne marchera pas. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, de la force, vous allez être déçu. Laissons Dieu orienter nos schémas, réajuster nos schémas. Amen.
Est-ce que vous êtes encore capable ce matin d'entendre le conseil du Seigneur qui dit « J'ai envie de chambouler tes pensées, j'ai envie de chambouler tes schémas, j'ai quelque chose d'autre pour toi. » Permettez-vous à Dieu de stopper vos plans, parce qu'il a un plan pour vous. Et ce plan procure une véritable joie. L'esprit de cet homme, de cet agriculteur, était tout entier tourné vers la jouissance de cette courte période de cette vie terrestre, une possession périssable. Et il ne peut dissimuler sa joie de quelque chose qui est à la portée de sa main, mais qui ne durera pas. Donc, récapitulons. Cette joie est basée sur les richesses terrestres, bien que celles-ci viennent de Dieu. Cette joie est une joie égoïste. Cette joie est dépendante des circonstances. Cette année-là, cette joie est une joie du profit immédiat ou futur. C'est une joie éphémère, charnelle, terrestre, centrée sur la personne. Et ça, surtout, ça n'a pas de valeur, pas de grande valeur vis-à-vis de Dieu. Alors, quelle est la joie selon Dieu? Nous prendrons du coup notre seconde référence dans Luc 15, 3 à 7. Vous connaissez bien ce passage. Mais, Jésus toujours, il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel » pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 autres, juste qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Vous avez vu la joie à chaque fois là? La joie du berger qui retrouve sa brebis. La joie, la fête avec ses amis. Venez, allez, on mange, on fait la fête, j'ai retrouvé ma brebis. Et la joie dans le ciel. Une joie qui débute sur les retrouvailles, une joie qui se communique, et une joie qui a des répercussions même dans le ciel. Ça, c'est la joie de Dieu. Et vous savez que Jésus étant défini comme le bon berger, c'est lui qui a quitté le ciel pour revêtir la chair et le sang pour nous atteindre afin de nous récupérer. Et il est en joie quand il récupère sa créature. Il est en joie et se réjouit. Et là-haut aussi, les anges font la fête. Et vous savez que vous êtes cette brebis, hommes et femmes, qui décida un jour de se laisser trouver par le berger. C'est Dieu ici, qui nous dit qu'il a l'initiative. Souvent, on dit, oui, je suis venu à Jésus. Oui, mais
Bien avant, il avait déjà son plan prévu de venir vous récupérer, de taper à la porte de votre cœur.
C'est lui qui a l'initiative. Alors la joie du ciel, c'est quoi? C'est quand un homme reconnaît ses péchés et tout le mal qu'il a pu faire. La joie du ciel, c'est aussi une femme qui a besoin de Dieu et qui reconnaît que pendant les restants de ses jours, qu'elle a toujours une dépendance vis-à-vis de Dieu. La joie du ciel, c'est quand un jeune homme veut croire en ce que dit Jésus à travers sa parole. La joie du ciel, c'est aussi une femme qui désire arrêter avec son ancienne vie pour plaire à Dieu. Quand une personne accepte d'abandonner son schéma de vie, ses plans d'une richesse éphémère pour reconnaître la vraie richesse, voilà ce qui a de la valeur pour Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qui a de la valeur dans le ciel. Et le ciel se met en joie. Quand le berger retrouve sa brebis, quand la brebis s'est laissée trouver par le berger, c'est l'image du salut. Jésus est venu chercher les perdus. Et lorsqu'un homme et une femme répondent à son appel, ils sont sauvés. C'est la joie qui a du poids pour Dieu. Un jour, vous avez donné votre vie à Dieu, n'est-ce pas? Et vous avez imaginé que là-haut, les anges étaient en train de faire la fête. C'est ce qu'il décrit, n'est-ce pas? Les anges ont fait la fête parce que vous êtes convertis. Est-ce qu'il y a encore cette joie? Est-ce que les anges font encore la fête dans notre église? Quand on peut témoigner aux personnes et qu'on peut aussi les amener à l'écoute de la parole de Dieu quand ils se convertissent, quand vous parlez à vos voisins, à vos frères, à vos collègues en disant, écoute, Jésus est là, Jésus peut agir. Et si vous avez ramené une personne au Seigneur, c'est la joie. Et nous avons aussi, ce qui est extraordinaire, un impact sur le ciel dans ce sens-là. La joie de la foi aussi, quand Dieu nous voit croire en sa parole, mettre tout en place, abandonner certaines choses pour courir dans sa présence. C'est une joie aussi. Alors, on va arriver sur la dernière référence, toujours dans Luc chapitre 9, versets 1 à 10. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Zachée.
Qu'est-ce qu'ils connaissent, l'histoire de Zachée ici? Mets la main.
Ok. Donc Zachée, qui est-il?
Zachée, c'est un homme de petite taille. Il n'y a pas de taille, ça. C'est un homme de petite taille, c'est un collaborateur. Vous savez, hein, la nation d'Israël était sous le joug de Rome. Il y avait toujours des gens qui fricotaient un peu avec le collaborateur. Qui pouvait aussi s'amasser des trésors. Et Zachée était une personne de ce type-là. Donc il n'était pas tellement aimé de ses frères juifs. Mais qu'à cela ne tienne, Jésus doit passer à Jéricho. Et là, il a envie aussi de voir ce Jésus. D'accord? Alors, nous faisons la lecture. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta dans un sycomore pour le voir, c'est un arbre, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé en cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec tristesse.
Ah, vous suivez.
J'ai dit, je me suis trompé ou quoi?
Zachée le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et dirent, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen.
La joie de Zachée. La joie de ce gars riche qui a amassé malhonnêtement certains trésors.
Zachée, à toi de descendre. Et là, Zachée le reçoit avec joie. C'est une joie que lui procure Jésus.
Amen. Le gars, il est riche. Il a de l'argent. Mais il est en train de dire, maintenant, je m'en fiche. J'ai trouvé une plus grande joie et une plus grande richesse en Jésus-Christ. Je donne aux pauvres le double, le quadruple, qu'importe, ça n'a plus de valeur pour moi. Parce que j'ai trouvé plus en Jésus-Christ. À l'inverse de notre agriculteur qui n'était pas riche selon Dieu, qui a amassé sur la terre. Zachée a tout compris. La vraie richesse, c'est Jésus.
Je donne, prenez, je m'en fiche maintenant parce que j'ai trouvé quelqu'un qui me donne une plus grande richesse. J'ai trouvé mieux. J'ai trouvé Jésus, le Fils de Dieu. Il est le trésor du Père qui m'a été confié, qui m'a été envoyé, qui m'a été donné.
Est-ce que vous avez encore cette richesse-là? Est-ce que vous avez encore cette joie parce que vous avez trouvé Jésus? Ou est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'était bien au départ, j'ai plein de joie, j'avais un zèle, une fougue, mais maintenant, j'ai du mal. J'ai du mal à me réjouir.
Alors, il y a la joie du côté du berger qui retrouve sa brebis, mais il y a aussi la joie du côté de la brebis qui trouve le berger.
Amen.
Un homme qui a opéré un demi-tour et s'est converti, il a laissé ses richesses qui n'ont plus de valeur en comparaison de Jésus-Christ. Où est ta joie ce matin? Toi qui as accepté Jésus, souviens-toi de comment tu étais aussi égaré avant de le trouver. Souviens-toi comment tu étais perdu, errant ça et là. Mais Jésus est venu te chercher. Et devant lui, nous n'avons pas le droit de négliger la joie du salut. On n'a pas le droit. Je suis désolé. Tout doit pâlir devant lui. Parce que notre âme, un jour, ira vers lui. On sera devant lui. Amen. Face à face. Je ne sais pas si c'est excitant pour vous, enthousiasmant pour vous. Notre joie principale, frères et sœurs, se trouve en Christ. Sans tenir compte des autres circonstances, comme l'a dit la sœur, qui se produisent dans une vie. Oui, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être dans l'épreuve. Mais en regardant constamment à ce que Jésus a fait pour moi, je dois savoir me réjouir dans ces circonstances aussi. Il en est la force. La joie est une réponse à la réception du salut. La joie est une réponse à la réception du salut, mais elle est aussi une décision. Je décide de me réjouir. C'est même un commandement. Réjouissez-vous, dira Paul. Réjouissez-vous. Cette joie est aussi une expérience de la présence de Dieu. Vous savez, quand la présence de Dieu est là, votre âme, elle se réjouit. C'est pourquoi il faut chercher constamment la présence de Dieu, pas uniquement dans le culte. Constamment, il faut la rechercher. C'est l'action de l'Esprit en nous. La joie permet aussi aux chrétiens d'endurer les épreuves. N'est-il pas écrit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toute espèce de choses de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. » La joie est aussi liée aux pratiques spirituelles. Vous savez, hier on avait une réunion de groupe de maison. Et à un certain moment, on était en cercle, tout le monde participait. Et à un certain moment, on priait les uns pour les autres. Et notre mamie Mireille, une petite bout de femme de plus de 70 ans à peu près, elle s'est levée et elle a imposé les mains à quelqu'un. Et là, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle était toute joyeuse. Elle a essayé d'écrire ce qu'elle vivait. Elle m'a dit, Olivier, c'était comme un vase qui était plein et qui a débordé. Plus de 70 ans. Elle attendait ça depuis très longtemps. Et vous savez comment on a reçu cette parole-là? Avec joie. On s'est réjoui parce que la joie aussi est dépendante des manifestations de l'Esprit, de la présence de l'Esprit. Moi, je me réjouis quand il y a des délivrances. Je me réjouis quand il y a le baptême de Saint-Esprit. Je me réjouis quand il y a des convertis, quand il y a des baptêmes. Donc, je me réjouis quand il y a des conversions aussi. Notre joie, elle est là-dedans également, frères et sœurs. Dans les pratiques spirituelles.
Comment favoriser cette joie? Comment la réactiver? Parce que des fois, on se laisse aussi engluer par les circonstances de la vie, n'est-ce pas? Par les difficultés. Mais comment réactiver la joie?
Alors, dites-le avec moi, un seul mot.
La reconnaissance. La reconnaissance. Si vous vivez dans la reconnaissance, votre âme se réjouit. Il faut être capable d'être reconnaissant pour les moindres petites choses. Surtout pour Jésus. Mais aussi pour les moindres petites choses. Parce que Satan est un voleur de joie. Vous savez que Satan est un voleur de joie? C'est normal d'avoir un toit sur la tête. C'est normal d'avoir un frigidaire plein. C'est normal d'avoir des enfants. C'est normal d'avoir une femme. Tout est normal. Au contraire, soyons conscients que notre Dieu, c'est celui qui donne tout ça. Avez-vous la capacité de vous tisser vous-même dans le sein maternel? Non. C'est sa grâce. Notre vie est une grâce. Tout est grâce. La richesse de la terre, et surtout la richesse spirituelle en Jésus-Christ. Donc, on enlève les pensées sataniques, les influences néfastes qui essaieraient de nous entretenir dans un mécontentement constant. Rejetons ça. Et ce matin, réactivons encore la joie par la reconnaissance. Et je pense qu'on doit, en tant que chrétien, apprendre à vivre dans le contentement. Je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Mais cela n'altère pas, pardon, ma relation avec les autres et surtout avec celle qui est horizontale et verticale.
Dans les derniers temps, dira Paul à Timothée, les gens ne seront plus capables de dire merci. Est-ce que vous êtes encore capable de dire merci, Seigneur?
Merci pour la moindre petite chose que tu me donnes. Merci pour le repas, merci pour les courses. Parce que dans certains pays, des personnes ne peuvent même pas acheter, manger. Nous, on a encore le choix de savoir ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange, midi? Je ne sais pas, poulet, bœuf, je choisis un peu. La reconnaissance d'être là, parce que certains de nos frères et sœurs sont obligés de se cacher. Ils n'ont pas un lieu pour se réunir, un lieu qui leur appartient, pour se réunir, pour célébrer Dieu, comme on l'a vu ce matin, avec beaucoup de joie et beaucoup de liberté. On peut commencer un culte et finir le culte quand on veut. Et des fois, 10h, on dit 11h, 2h par semaine, c'est lourd. Hein. Alors que nos frères et nos sœurs qui sont dans la persécution, ils sont obligés de se cacher, ils se réjouissent tellement. Parce qu'ils sont là. Réjouissons-nous et apprenons à dire merci pour les moindres petites choses. Et souvenez-vous surtout de la joie du salut, parce que vous étiez morts et sans espérance.
Merci Seigneur. Merci pour ce que tu donnes. Je vais clôturer avec cette histoire des Hébreux, vous savez. Les Hébreux, malgré...
Ils ont vu les hauts faits de Dieu, les grandes choses, à un certain moment, au fur et à mesure, ce n'est pas suffisant. Jamais suffisant.
Alors, ils ont commencé à se plaindre. Ils se plaignent. L'eau, la manne, la viande, le KFC ou le KFC, parce que c'est des KFC. Ils se plaignent. Ils se plaignent constamment dans le désert. On peut demander à Dieu la nourriture, ou la viande même, ou l'eau. Mais il y a l'attitude. Comment je demande? Est-ce que c'est une attitude de reconnaissance ou est-ce qu'on régime constamment, on rechigne, donne-moi, non, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, etc. C'est pas assez. Donc, il dit dans la parole que leur âme était desséchée. Leurs yeux ne voyaient plus la manne à cause de l'ingratitude. Vous savez, l'ingratitude change le miracle à tel point qu'on trouve ça normal et même on se lasse. Donc, quelque part, le manque de reconnaissance vient altérer ma vision des choses. Un miracle, ils le voyaient comme une malédiction. Encore? Encore ça? Souvent, on dit à Dieu, Dieu, donne-moi ça et je serai content. Il t'a déjà tellement donné. Regarde un petit peu en arrière, la Bible dira, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tout devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nom en est grand.
Alléluia. en adorant.
Jésus doit être la source de notre joie, frères et sœurs, chaque jour. Quelqu'un dira, les heures de chaque journée ne doivent suffire pour exprimer notre reconnaissance. Et vous savez, si vous exprimez votre reconnaissance, vous n'aurez plus de place à la plainte. Ne plus être reconnaissant, c'est minimiser la grandeur de ce que Jésus a fait pour vous. Quand nous cessons d'être reconnaissants envers Dieu, nous devenons desséchés et notre joie s'évapore et notre force avec, parce que la joie du Seigneur est ma force. Donc c'est lié, hein. Gratitude, joie, force. Nous, chrétiens, en conclusion, notre joie ne dépend pas de ce que l'on a. Nous ne devons pas avoir donner trop d'importance à ce que l'on a ou ce que l'on veut avoir, mais notre joie est fonction de comment mon cœur est disposé pour Dieu. Et des fois, et je reviens dessus, des fois on s'écoute trop. On écoute trop nos pensées, il faut qu'on soit capable de dire à nos pensées, à notre âme, réjouis-toi mon âme. Arrête de tergiverser avec ces pensées qui circulent dans ma tête, qui sont négatives. Réjouis-toi, mon âme. Donc, vous proclamez quelque part la chose. Parce que Dieu m'a tant donné. Je déclare ce matin que la joie reviendra.
Amen.
On peut prier parce que quelqu'un dirait que la prière, c'est la respiration du chrétien et je pense que la joie, c'est le carburant de son âme. On prie. Seigneur, je te remercie et comme le dit ta parole, le royaume de Dieu, c'est la justice. Mais c'est aussi la paix et c'est aussi la joie. Je veux revenir à cette joie, Seigneur. Et je vais faire un appel. Peut-être que dans tout ce qui a été dit, il y a des choses que le Saint-Esprit a pointées. Vous savez, le Saint-Esprit est fort pour ça. Moi, je vous fais confiance, je ne suis pas assez intelligent pour savoir ce qu'il y a dans votre cœur, mais je fais confiance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Alors, en récapitulant, peut-être que je suis trop attaché au bien matériel. J'ai trop mis mon espoir là-dedans, dans la sécurité financière. Comme si ma vie, mon âme en dépendait. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui maintient nos vies dans ses mains. Dieu est celui qui veille sur nous. Alors je crois que mes richesses viennent de moi, de mon labeur, de mon travail, et j'ai oublié de présenter toutes ces bénédictions à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Mais ce matin, je veux te rendre la reconnaissance, par la reconnaissance, mon adoration. Pardon parce que je me suis trop attaché à mes plans terrestres. J'ai trop donné importance à mes réflexions, en oubliant l'auteur de toutes mes bénédictions, c'est-à-dire Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, je reviens vers toi. Je veux m'amasser des trésors dans le ciel. Je veux, Seigneur mon Dieu, apprendre à me réjouir de toi, ou réapprendre à me réjouir. Compter tous les bienfaits que tu m'as donnés jusqu'à maintenant. Et prendre cette ferme décision, non, je ne me laisserai pas endiguer, envahir, supplanter par des pensées qui constamment me tirent en arrière. En me disant que ce n'est pas assez, que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas bon pour moi. Alors si vous êtes dans cette situation maintenant, levez votre main simplement en demandant au Saint-Esprit de vous aider, de vous dégager, de vous apprendre à vous réjouir dans chacune de vos situations, même s'il y a la difficulté en face. Levez simplement votre main et nous allons prier pour vous afin que la joie du Seigneur soit votre partage et que vous puissiez encore maintenant avancer dans cette optique que de faire confiance au Seigneur, de faire confiance au Seigneur et de laisser encore cette joie du salut vous envahir, cette joie par la reconnaissance de qui vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni encore, Seigneur. Je vais encore faire un appel pour les personnes qui ont prévu des schémas sans forcément inclure Dieu, en disant « Dieu bénit mon schéma ». Mais ce n'est pas la bonne chronologie. C'est Dieu
Montre-moi ta volonté. Montre-moi. Regarde si je marche. Regarde si mes pieds sont fermement sur le roc. Si je marche dans les voies que tu as tracées pour moi. Je reconnais quelque part, Seigneur, de ne pas t'avoir consulté, de ne pas t'avoir demandé. Je veux que ce matin, tu arrêtes mon plan. Parce que ce qui m'intéresse, Seigneur, mon Dieu, c'est de faire ta volonté. Et je sais qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite pour moi. Alors viens enlever ce qui n'est pas de toi dans mon esprit, Seigneur. Et je reviens ce matin à toi. Si vous êtes dans cette situation, levez aussi votre main. Nous allons prier pour vous. Et Dieu va voir votre foi, votre reconnaissance, votre humilité. Il va vous bénir et vous accompagner dans le chemin qu'il a prévu pour vous. Seigneur, tu vois ces bien-aimés, Seigneur. Tu vois ces personnes qui reviennent avec humilité devant l'autorité de ta parole, qui reviennent devant toi, Seigneur. Merci pour ces cœurs qui sont ouverts à toi. Maintenant, dépose une direction particulière. Que ce matin soit un nouveau départ. Que ce matin, Seigneur, mon Dieu, soit vraiment une référence sur ton planning divin en disant, mon fils et ma fille est revenu vers moi. Et m'a demandé la capacité de se réjouir en moi. Seigneur, bénis cette assemblée, Seigneur. Merci pour ton esprit à l'œuvre, Seigneur, mon Dieu. Et vous qui peut-être venez pour les premières fois, qui n'avez pas encore goûté à cette joie, qui ne connaissez pas Jésus-Christ. Comme ce Zachée, il croyait avoir des biens sur cette terre, il croyait être riche, mais il n'était pas, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Alors, as-tu rencontré Jésus? Connais-tu cette joie qui surpasse toute intelligence? Cette joie qui surpasse tout ce que tu peux amasser ou comprendre sur cette terre, si tu ne la connais pas. Je ne saurais trop te conseiller, même je nous t'en supplie, nous vous en supplions. Convertissez-vous. Recherchez une relation avec lui. C'est ça la foi. La foi, c'est croire dans la parole, mais aussi et surtout rechercher une relation avec lui. C'est alors que votre cœur se remplira de joie. C'est alors que vous verrez toutes choses autour de vous pâlir devant lui. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, levez simplement votre main. Et je prierai pour vous afin que par l'Esprit de Dieu, vous puissiez aussi avancer dans cette voie du salut. Y a-t-il quelqu'un qui veut rencontrer Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut replacer Jésus sur son trône du cœur en le contemplant dans toute sa splendeur, en comprenant tout son amour vis-à-vis de vous? Y a-t-il quelqu'un qui veut se réconcilier avec Dieu par son biais? Et pas par votre intelligence, par vos efforts, mais uniquement par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Tu bénis les cœurs. Tu connais les cœurs. Viens rétablir une chose. Et sois sur ton trône de nos cœurs ce matin. Toi, le Dieu de l'éternité. Que nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. Que tu sois mis pour en revenir à la première place. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit.
Amen. 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 Am